Et nous lirons aujourd'hui un des textes proposés à la méditation des Églises dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Comme la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras vivants. » Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. C'est impressionnant quand même. La foule est si nombreuse qu'elle remplit tout le rivage. L'enseignement de Jésus, plein d'autorité au point que Pierre lui fait confiance contre toute logique. Et la pêche est tellement miraculeuse qu'il faut deux bateaux pour ramener les filets à terre. Et cela se conclut par une vocation étonnante, pêcher des humains vivants. C'est impressionnant. Mais ce qui est également impressionnant, c'est cette humanité mise en scène, une humanité fragile, pour laquelle ce qui advient, ce qu'elle devient, n'est pas écrit d'avance. Il y a tant d'occasions dans ce récit où les choses auraient pu tourner autrement. Il y a des possibles ouverts et des choix qui leur ont permis de devenir des réalités. Et ce mouvement de choix et de devenir est celui dont il faut se souvenir et méditer à propos de ce texte, bien plus que de se dire « il faut faire comme Simon-Pierre, sans attendre et sans se poser de questions ». Cela commence avec la foule qui se presse autour de Jésus. C'est pour l'écouter, certes, mais c'est une foule débordante, exigeante, et cela pourrait mal tourner. Un mouvement de foule, c'est dangereux. D'ailleurs, Jésus se retrouve les pieds dans l'eau. À vouloir l'écouter, la foule le met en difficulté. À force de le presser, elle pourrait le noyer, l'engloutir dans sa propre houle. Et la mer, au bord de laquelle se trouve Jésus, la mer dans la mentalité hébraïque, ce n'est pas un lieu favorable, c'est un lieu de chaos. Alors voilà, il y a une grande foule qui vient pour l'écouter, mais Jésus a besoin d'aide. Pour que ses paroles soient entendues, pour que la parole de Dieu soit entendue, il a besoin d'aide. Il y a là des bateaux de pêche, avec leur équipage, occupés à leur tâche en retour de mer. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, doit leur demander de l'aide. Et Simon accepte. Il accepte d'interrompre son travail, d'aider Jésus, de le prendre à son bord, de s'éloigner un peu de la rive, et alors Jésus peut s'asseoir et s'adresser à la foule. Jésus le Christ a besoin d'aide, et d'une aide toute simple. Jésus le Christ demande de l'aide, et il est possible de lui dire oui ou non. Est-ce pour remercier Simon que Jésus lui propose une autre partie de pêche? C'est une proposition, même si la forme est impérative, avance en eau profonde, jetez vos filets. Simon n'est pas obligé de faire ce que dit Jésus. Puis d'abord, ce n'est plus l'heure de pêcher, on ne pêche pas le jour mais la nuit. Et les pêcheurs sont fatigués parce qu'ils ont passé justement toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Alors Simon aurait pu répondre à Jésus et ça aurait été légitime finalement. Écoute, chacun son métier, hein. Toi tu es charpentier, va t'occuper de tes rabots, mais pour la pêche tu me laisses faire, c'est moi le spécialiste. Et pourtant, Simon accepte. Il accepte de faire ce que Jésus lui propose. « Sur ta parole, » dit-il. « Sur ta parole. » Luc ne nous a rien dit de l'enseignement de Jésus à la foule. Si Simon a été impressionné, et il l'a été, nous ne savons pas du tout en quoi, ni pour quelle raison. « Sur ta parole. » Ça, c'est quand même une parole de confiance, de dire cela à quelqu'un. Sur ta parole, je vais faire ce que tu proposes, ce que tu dis. C'est une parole de confiance de dire cela. Une parole qui donne et qui reconnaît du poids à la parole de l'autre. La parole de l'autre est crédible. C'est ce que dit ce petit bout « sur ta parole ». La parole de l'autre est crédible, il est possible de lui faire confiance, même si cette possibilité est un peu folle au regard des usages, des coutumes, des habitudes, de l'expérience et des savoir-faire. Il n'y a peut-être pas tant de personnes que ça à qui nous pouvons dire « Sur ta parole, je vais faire ce que tu me dis ». Et en sommes-nous, nous, de ces personnes, fiables et crédibles? Combien de paroles légères, volatiles, vaines ou manipulatrices entendons-nous? Ou disons-nous? Mais Simon a écouté Jésus, et les filets sont remplis. Les filets sont pleins à craquer. Il faut demander de l'aide, encore. Demander de l'aide à l'autre équipage. Et il y a tellement de poissons que les deux barques s'enfoncent. C'est trop de poissons. Trop d'abondance. Trop de bouleversements. Et Simon est effrayé. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. N'est-ce pas vertigineux, n'est-ce pas effrayant de se rendre compte que des contraintes et des nécessités considérées jusque-là comme indépassables ne sont pas ce qui, de manière ultime, essentielle, fondamentale, donne sens et forme au monde? N'est-ce pas vertigineux et même effrayant, de faire même brièvement l'expérience d'une telle liberté? N'est-ce pas vertigineux et effrayant que de se rendre compte que ce sur quoi on appuie nos existences, n'est pas absolument certain. Dans le monde, pour nos vies, à quoi est-ce que nous disons « Amen » quand ce n'est pas à la fin d'une prière ? Amen, c'est-à-dire « ceci est vrai, ceci est solide, ceci est fiable ». Dans nos vies, devant quoi nous inclinons-nous ? Résignés ou persuadés qu'il n'y a rien de plus fort, rien de meilleur, ou simplement rien d'autre ? Dans notre vie personnelle, mais aussi en matière de société, en matière d'économie, en matière de politique, en matière d'écologie. À quoi disons-nous « Amen » ? Devant quoi nous résignons-nous ou nous inclinons-nous ? Le monde que connaît Simon est remis en cause par cette pêche surabondante. Alors il s'accroche à la dernière chose peut-être qui lui reste, son identité, sa vérité. Et comme il se trouve manifestement devant une intervention divine, eh bien c'est sa vérité d'homme pécheur. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Ça au moins c'est vrai quand même. Et nous pourrions le dire chacun de nous. Mais voilà que cette définition tout à fait exacte ne tient pas non plus. Jésus passe sur l'état de pécheur, comme sur un tremplin pour aller plus loin, enfin, pour que Simon aille plus loin. N'aie pas peur. Jésus comprend la frayeur de Simon. Alors il donne un sens à ce qui s'est passé, et du coup, il donne une orientation nouvelle à l'existence de Simon. Désormais, ce sont des humains que tu prendras vivants. Pêcheurs d'humains, c'est-à-dire participant à l'œuvre de vie, de vivification, de libération, qui est celle de Jésus-Christ et celle de Dieu. Jésus n'attend pas de Simon ni de personne une relation sur le mode permanent du pécheur indigne devant son Seigneur. Non, non, il ouvre la possibilité à une relation beaucoup plus juste, beaucoup plus ajustée selon la volonté divine, une relation qui est de le suivre. La vérité de Simon n'est pas d'être un pêcheur de poissons, ni un homme pêcheur. C'est d'être un homme suivant Jésus, qui prendra des êtres humains vivants. La vérité de Simon, c'est-à-dire c'est de devenir un homme qui partagera, qui offrira à d'autres d'entrer dans un nouveau monde, et de devenir à leur tour des vivants libérés dont l'existence ne sera pas orientée par les contraintes et les nécessités qui règnent sur le monde. Et d'ailleurs, cette libération se discerne très vite dans le mouvement de Simon, de Jacques et de Jean, qui laisse tout, tout, y compris la montagne de poissons dans les barques, y compris la foule nombreuse, parce que ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est fondamental, c'est la possibilité offerte, ouverte par Jésus. Ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que Simon croit de lui-même, mais c'est l'appel de Jésus-Christ à partager avec d'autres la vie donnée. Ce n'est pas l'abondance qui fait sens, c'est la liberté et le partage. C'est de se rencontrer dans les fragilités des uns et des autres, dans le besoin qu'on a de l'autre et dans le besoin qu'il a de nous. Compassion, empathie et partage sont plus sensés que cette montagne de poissons, plus sensés que cette pêche miraculeuse ou que la foule si nombreuse qui se presse. Ce n'est pas avec de grands nombres, de grandes assemblées, ni avec de grands miracles, qu'on comprend et qu'on apprend à vivre la liberté et la fraternité. C'est en écoutant la parole de Dieu. C'est en recevant la confiance que Dieu nous fait en Christ et en lui faisant confiance sur sa parole. Amen.